de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur.
Bon, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. On vous souhaite pour ce début d'année une bien belle année pour 2014, une année de solidarité, d'énergie renouvelable aussi. Et puis, comme ça va être l'année des élections municipales, une belle occasion pour chacun d'entre nous, en tant qu'association, mais vous aussi en tant qu'auditeur et individu, pour interpeller tous les candidats et candidates aux élections municipales sur leur lien avec l'industrie nucléaire, sur l'information que l'on réclame nous depuis très longtemps sur les dangers du nucléaire et notamment des transports de déchets radioactifs et de combustibles nucléaires. Voilà donc une année où le peuple pourrait intervenir et devrait intervenir face aux candidats aux élections. Eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui une association. Ça fait un peu partie de notre volonté de nous ouvrir aux associations locales, à faire une jonction un petit peu de toutes les luttes. Donc, c'est pas une association qui milite en tant que telle sur le nucléaire. C'est une association qui s'interroge sur l'utilisation des voies de chemin de fer côté Ardèche. C'est l'association de défense rive droite ardéchoise. René sera avec nous tout à l'heure au téléphone parce qu'il a pas pu se déplacer et il va pouvoir nous présenter son association et les enjeux et puis les problématiques posées par cette association, notamment par rapport au transport de déchets nucléaires et de déchets chimiques sur la rive droite du Rhône. En attendant, eh bien, on va donner la parole à Georges, notre billettiste, qui revient sur Fukushima.
Voilà, toujours. D'abord, bonjour, chères auditrices et auditeurs. Tous mes voeux de santé et de prospérité sans nucléaire pour cette année 2014. Au menu de cette émission, Je ne vous souhaite pas une indigestion. Je vous propose la loi du secret adoptée en décembre par le Parlement japonais et l'emploi de SDF à Fukushima. Alors, d'après un article de Saul Takahashi, avocat japonais, cette loi des secrets désignée, passée en force à la Chambre basse le 26 novembre et votée à la Chambre haute le 6 décembre, donne au gouvernement japonais, c'est-à-dire l'exécutif, le pouvoir sans restriction de désigner une large gamme d'informations comme secret de la nation, sans aucun contre-pouvoir efficace d'aucun organisme indépendant. Le motif invoqué est que le gouvernement japonais estime qu'il n'y a pas dans le pays d'infrastructure légale pour l'espionnage et les secrets d'État. En réponse, une autre loi de novembre a établi un Conseil national de sécurité. Alors le résultat, d'abord cette loi stipule précisément le partage des secrets désignés avec des gouvernements étrangers, apparemment plus digne de confiance que le peuple même du Japon. En raison d'une formulation opaque de la loi, les gens ne peuvent pas être en mesure de savoir si une information à laquelle ils accèdent ou qu'ils rendraient publique est susceptible d'être de fait un secret désigné. En réponse à la pression publique et à l'association du barreau japonais, le gouvernement a annoncé qu'il mettait en place deux organismes indépendants pour garantir qu'il n'y ait aucun abus dans l'application de la loi. D'abord, un groupe d'experts juridiques en mission vers le Premier ministre pour élaborer les lignes directrices de désignation des secrets et un comité de surveillance des renseignements dont personne n'en attend rien, doté de deux secrétaires adjoints de la Défense et Affaires étrangères désignant le plus de secrets. Pour le nucléaire, comme le gouvernement a été dissimulateur et arbitraire suite à la cata de Fukushima, à savoir exposition de la population plus d'un mois après la fusion à de fortes doses de radioactivité, je pose la question, que se passera-t-il en cas de divulgation par la presse ou par un autre canal d'infos techniques, de santé ou scientifiques? Deuxièmement, l'embauche de SDF a été faite suite aux grandes difficultés pour décontaminer la région radioactivée par des entreprises sous-traitantes financées par un budget de 35 milliards de dollars débloqué par l'État japonais. Le travail demandé est de vider les maisons abandonnées, balayer autour des sites, arracher l'herbe ou encore racler la terre. Des yakuza, mafieux, pègres nationales ont été arrêtés, accusés d'avoir infiltré une entreprise de travaux publics pour proposer des contrats illégaux d'embauche au SDF, proie facile dans la région de Fuku. Enfin, le retard de la décontamination des sites induit 2 à 3 ans de plus que prévu pour la date de première échéance fixée en mars 2014. Je vous incite à voir la vidéo de France TV Info du 31-12-2013 à Sendai sur Dailymotion. Chers auditeurs et auditrices, que feriez-vous si les deux événements précédemment cités arrivaient en France ?
Eh bien, merci Georges. Maintenant, c'est Céline. Mais alors, Céline n'a pas trouvé encore les moyens d'avoir le don d'ubiquité. Donc, comme elle est à la technique, elle nous a enregistré son message, son billet d'humeur.
Bonjour à tous. En ce début d'année, je tiens à revenir sur les révélations de Mediapart parues à la mi-décembre concernant les récentes mises en demeure formulées par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, et le ministère du Travail à l'encontre d'EDF dans le cadre de la construction de l'EPR de Flamanville. Ce réacteur européen à eau pressurisée, EPR, est le réacteur de dernière génération qu'Areva a développé et qu'EDF tente de commercialiser à grande échelle, notamment à l'étranger. L'EPR en construction à Flamanville a cumulé, depuis son démarrage en 2007, de nombreuses difficultés. Le chantier a subi des malfaçons liées à la mauvaise qualité des bétons et des aciers employés, et 3 enquêtes préliminaires ont été lancées concernant le non-respect de la réglementation du travail et les règles de sécurité. L'une d'elles vise à déterminer les responsabilités de 2 entreprises dans le décès d'un salarié sur le chantier en 2011. En cette fin d'année 2013, de nouvelles malfaçons sont observées. En octobre, une pièce du chariot du pont polaire casse et fait une chute de plus de 20 mètres à l'intérieur du bâtiment du réacteur. Par miracle, aucun salarié n'est blessé. L'ASN décide alors de procéder au contrôle de cette machine qui servira au déplacement des pièces du réacteur pesant plusieurs centaines de tonnes et dont la moindre défaillance peut avoir des conséquences sur la sûreté nucléaire et la sécurité des travailleurs. En décembre, le constat des inspecteurs de l'ASN est alarmant. Leur contrôle fait apparaître de nombreuses non-conformités que EDF n'entend pas lever avant d'utiliser l'équipement, et ce malgré les courriers de l'ASN envoyés à la suite de l'incident du mois d'octobre. EDF s'apprêtait même à utiliser cette machine le 18 décembre pour mettre en place la cuve du réacteur. L'ASN a donc saisi le ministère du Travail, qui a effectué des mises en demeure. EDF dispose de 6 mois pour rendre sa machine conforme. D'ici là, il a interdiction de l'utiliser. Ainsi, bien que le chantier ne soit pas suspendu, la construction du réacteur est-elle bel et bien arrêtée jusqu'à la résolution de cette nouvelle malfaçon. Ce qui est effarant dans cette affaire, comme dans l'ensemble des problèmes rencontrés depuis le début de la construction de l'EPR, c'est la légèreté avec laquelle EDF et ses entreprises sous-traitantes conduisent ce chantier. Les préoccupations relatives à la durée et au coût des travaux semblent bien supérieures à celles concernant la sûreté des installations, les conditions de travail et la sécurité des travailleurs employés sur le site. Pas étonnant toutefois, quand on sait que le chantier cumule près de 4 années de retard et que son coût prévisionnel s'élève à 8,5 milliards d'euros, contre 3,3 milliards annoncés initialement. La mise en demeure de l'ASN et du ministère du Travail ne devrait pas arranger la situation. EDF et Areva, et leur beau discours sur la sûreté, la fiabilité et le respect de l'environnement de cette EPR, perdent toute crédibilité dans la promotion de cette nouvelle génération de réacteurs avec lequel est envisagé l'avenir de la production d'électricité nucléaire en France. Combien de temps et de milliards faudra-t-il encore avant que l'on décide enfin d'investir dans des alternatives connues, maîtrisées, propres, sûres et génératrices de dizaines de milliers d'emplois ?
Déraille et puis on a les mains pleines de cambouis. Qui dit tant pis, le vernis s'écaille et fini, c'est fini. Qui dit les briques et le gris, la ferraille et les débris. On a les mains pleines de cambouis. Qui dit quand vient la nuit, la télé qui baille et l'ennui. De toi des ardoises, soulève, relève-toi, on s'enlise ici dans la vase. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elle se dévoile jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Et la pluie, on patauge dans la bouillie. Qui dit qu'on est maudit, que la vie tiraille ici, ici. Qui dit qu'on ralentit, ça déraille et puis
qu'on ralentit. Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elle se dévoile jusqu'à nous. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. Nous debout, debout, même les pieds dans la boue, elle se dévoile jusqu'à nous.
Bonjour, vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Alors comme je le disais tout à l'heure, lors de notre présentation, nous avons décidé d'inviter aujourd'hui une association ardéchoise, alors pour plusieurs raisons. L'une parce que c'est Ardèche, c'est juste de l'autre côté du Rhône, pour nous les Valentinois. Et puis surtout parce que c'est une association qui pose la problématique des transports ferrés sur la voie côté Ardèche, ce qu'on appelle la rive droite du Rhône. Et on sait très bien que... pour beaucoup d'écologistes, notamment, le rail apparaît comme étant plutôt un moyen de transport à privilégier par rapport à la route. Or, cette association bien soulève un certain nombre de problèmes. En gros, tout ce qui rail n'est pas spécialement beau. Et c'est pour ça que André... Alors André, je ne sais pas si tu nous entends bien.
Allô ?
Oui, André, est-ce que tu m'entends bien ?
Oui, c'est pas André, c'est enfin la DRD 07, c'est René Jouve là.
C'est René, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai fait une confusion, donc René. bon, tu m'entends parfaitement. Alors voilà, je présentais un petit peu l'association, mais votre nom qui s'appelle Association de défense rive droite ardéchoise, est-ce que tu peux nous en résumer un petit peu à la fois son historique, comment vous l'avez créé, et surtout sur quels objectifs et à partir de quels problèmes?
D'accord. Alors donc en quelques mots, donc, notre association, c'est l'association de défense de la rive droite ardéchoise. Donc, elle a été créée, cette association, en 2009, une loi de 1901, donc, une association, donc, apolitique. Donc, nous avions, donc, à cette époque, en 2009, nous avions dénoncé un projet de la droite, à la suite du Grenelle de l'environnement, avait, donc, programmé, donc, un développement ferroviaire sur l'ensemble du territoire et donc plus particulièrement sur le couloir, sur la vallée du Rhône, donc, à la suite du fameux Céphale lyonnais. Donc il faut savoir que notre association donc prévoyait donc de se battre contre cette intensification qui est en train de se mettre en place, donc. Et à la suite de ce Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo. Donc, c'était une décision du gouvernement de droite, projet que nous avons dénoncé auprès du ministre de l'époque, Dominique Bussereau. Et donc, ce flambeau a été repris par le gouvernement actuel avec le ministre Cuvillier. D'accord. Nous pensons que ce projet, ce développement ferroviaire, donc, à la suite de ce Grenelle de l'environnement pour l'écologie, nous pensons que nous, par contre, l'écologie doit être au service des humains, des êtres humains, et non au contraire. Donc, notre association n'est pas contre le développement ferroviaire. Il ne faut pas que celui-ci se fasse au détriment des populations de l'Ardèche, et même également de la Drôme, parce que je ne sais pas, du côté drômois, ça n'a pas l'air de bien bouger. Donc, notre association a toujours demandé donc du trafic voyageur. Elle dit oui au trafic voyageur et non aux matières dangereuses transitées en terre ardéchoise. Il faut savoir que l'Ardèche, ce couloir romanien ardéchois, donc, regroupe 60% de la population ardéchoise, soit environ 204 000 personnes. Nous pensons que ce couloir va devenir donc un couloir de l'enfer avec l'arrivée donc programmée d'une intensification importante d'une autoroute ferroviaire et du fameux projet marathon donc qui est sorti tout récemment des cartons de Réseau Ferré de France.
Alors, le projet marathon, si tu veux bien, on en reparlera un tout petit peu après pour le développer. Là, effectivement, ce que tu soulignes, c'est qu'il y a un gros risque de transport. Il y a déjà des transports sur la rive droite du Rhône, mais d'une accumulation de ces transports et notamment des transports dangereux.
c'est ça. Alors actuellement, donc, Réseau Ferré France nous avait donné donc, des indications précises pour l'année de référence 2009 et 2010, qui était de 32-30 moyens jour. Actuellement, il est programmé donc suivant les dossiers que nous avons, donc qui émanent de Réseau Ferré de France, de la préfecture de l'Ardèche et du collectif des élus ardéchois, donc de forts cadencements. Donc à l'horizon, donc en prévision, donc à l'horizon 2020, il est prévu donc 125 trains, en 2025 150 trains et en 2030 260 trains de moyenne jour. Il faut savoir que ce sont des convois. L'Ardèche sera réservée simplement et uniquement, nous pensons, et c'est confirmé, qu'aux matières dangereuses. Le trafic voyageur, donc que nous espérons, parce que nous sommes pour le trafic voyageur, sera reporté certainement dans des décennies à venir. Voilà. Et donc, principalement, ce sont des matières dangereuses qui transitent dans les 37 communes ardéchoises, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les fameux matières dangereuses que nous voyons passer, ce sont principalement donc des hydrocarbures, des citernes. Donc je vais les citer quelques-unes parce que vous devez les voir sur le secteur ardéchois. C'est-à-dire ce sont des transporteurs Oyer, Mouillet, Erwan, Berech, Durenbach, Rinen, CG Compacter, Exelis Compact, Benartok, Unitas, Schenker. Ce sont toutes des matières dangereuses qui transitent sur la rive droite. Les prévisions donc que nous parlions tout à l'heure ont été faites à la suite du fameux contournement du Céphale lyonnais qui envoie à la sortie sud de ce Céphale lyonnais un tiers de ce fameux autoroute ferroviaire qui est mis en place actuellement sur la rive gauche et deux tiers sera réparti sur la rive droite. C'est-à-dire, on tombe sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, à savoir 125, 150 et 260 trains. Voilà, ce sont des chiffres qui nous ont été donnés par Réseau Ferré de France, la préfecture et le collectif des élus ardéchois. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que, si on comprend bien là, sur cette fameuse autoroute ferroviaire qui passerait par l'Ardèche, c'est effectivement un projet de la SNCF depuis un bon moment, ça, de concurrencer les camions par ce qu'ils appellent les autoroutes ferroviaires, vont circuler là des wagons chimiques, des wagons nucléaires aussi en grande quantité, et on a bien vu, et je pense que c'est un peu les choses que vous signalez vous aussi, c'est que à la fois les voies de service, on avait vu, nous, à Saint-Rambert, par exemple, d'Albon, en Drôme, l'état des voies de service qui était déplorable, où on voyait se croiser des trains chimiques avec des trains nucléaires. Et ce qui risque de se passer, c'est que côté Ardéchois, Auteuil, etc., on risque d'avoir la même chose, quoi.
Oui. Nous, ce que nous constatons, là, et nous sommes avertis par les associations lyonnaises, dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, avec qui nous avons d'excellentes relations et qui nous font passer des informations très intéressantes. Donc, nous voyons passer deux ou trois fois par semaine, ou quatre fois, on ne sait pas exactement, les fameux wagons, les wagons containers, les fameux castors. Nous appelons ça des castors. Je ne sais pas si sur la rive droite, vous les appelez la même chose. Mais c'est une motrice qui tire un container de déchets nucléaires, donc, en retraitement, donc, qui doivent monter très certainement de Marcoule, de
la... Non, ils viennent du Tricastin, Tricastin et Cruas.
Pardon ?
Ils viennent du Tricastin et de Cruas, en réalité.
Exactement. Donc, nous les voyons passer. Et donc, voilà, nous, on est d'autant plus inquiets parce que, en augmentant d'autant plus les cadencements sur la rive droite, nous allons augmenter d'autant les risques. Il faut savoir que les risques, les accidents se sont produits en Ardèche, donc pour remonter un peu dans le temps, donc en 1954, il y a eu une catastrophe ferroviaire donc, qui s'est soldée par un bilan de 37 morts plus 120 blessés gravement. Ensuite, en 1990, il y a eu l'accident du Teil, une citerne de terre qui a été endommagée, donc qui a motivé l'évacuation des populations du Teil. En 1993, l'accident de la Voulte, donc un pâté de maison qui a explosé, qui est parti en fumée. Et également en 1990, il y a eu le grave accident, l'accident à Chabanais. Donc tout un pâté de maison qui a brûlé à la suite d'une collision. Et donc il y avait 9 citernes d'hydrocarbures qui ont flambé pendant une dizaine d'heures. Donc, alors on ne tient pas des propos alarmistes. On pose les vraies questions, à savoir que des accidents se sont déjà produits sur cette ligne historique donc de la rive droite, ligne historique qui date de 1873. Donc il y a eu très peu d'aménagements qui ont été faits. Les prévisions ne sont pas très réjouissantes par rapport aux aménagements qui sont programmés par Réseau Ferré de France. C'est pour ça que nous sommes contre le développement ferroviaire, fret, surtout fret, sur cette rive droite qui n'est pas, disons, la meilleure des solutions pour le développement ferroviaire dans la vallée du Rhône.
On va redévelopper ça juste après notre petite pause musicale. Au retour de la pause musicale aussi, je vous poserai une question, c'est sur vos relations avec les élus, notamment parce que nous, sortir du nucléaire, on est confronté au même problème du manque d'informations qu'ont les élus des dangers représentant ces différents types de transports. En attendant, on va écouter, et vous restez en ligne, René, on va écouter Arcade Fire, que je ne connais pas, mais Céline me dit que c'est très bien. We'll be right back. Vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de Sortir du Nucléaire. Nous sommes avec René Jouve de l'association de défense de la rive droite, ardéchoise. Et nous étions en train de parler donc de ces fameuses autoroutes ferroviaires. La question que je vous souhaitais te poser, René, tu es toujours en ligne ?
Oui.
C'était les relations avec les élus, parce que sur le nucléaire et notamment le transport de matières dangereuses, Sortir du Nucléaire a beaucoup interpellé les élus. Et une des remarques que nous nous sommes faites après les réponses, notamment quand on a discuté avec des maires comme celui de la Voulte ou du Teil, etc., c'est que ces maires, alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai, disent ne pas connaître la réalité des dangers liés à ces transports.
Bien, je suis un peu de votre avis parce que nous avons quelques difficultés à nous faire entendre avec les élus ardéchois. À savoir que depuis 2009, nous essayons donc de participer à leurs débats parce que voilà comment c'est composé ces collectifs d'élus ardéchois. Donc en 2009, donc avait été créé un collectif des élus qui réunissait les élus donc et les parlementaires ardéchois. Ensuite, ce collectif d'ailleurs s'est créé avec des intentions bien précises, disant qu'il ne s'agit en aucun cas de s'opposer au principe du développement du fret. C'était Pascal Terrasse qui le précisait. Donc il y avait de quoi donc inquiéter les élus et la population. Donc actuellement donc nous sommes en rapport avec eux. Nous avons quand même été écartés des négociations donc avec ce collectif des élus. Ce collectif des élus ensuite avec la préfecture ont mis en place un comité de suivi qui suit les aménagements et la mise en route de l'intensification. Alors dans ce comité de suivi se trouve Réseau Ferré de France, la préfecture de l'Ardèche, le conseil général de l'Ardèche et le collectif des élus. Donc les populations, donc notre association, donc qui représente les populations ardéchoises, a été donc écartée de ce collectif. On voulait simplement y être à titre consultatif pour l'intérêt des populations ardéchoises. Donc ça n'a pas été fait. Et nos relations sont assez tendues en ce sens que nous sommes en parfait désaccord avec ce collectif des élus qui lui ne refuse pas l'intensification mais qui la cautionne indirectement. Alors ces élus ont beau nous dire qu'ils ne connaissent pas les réalités des choses, par contre ils sont bien au courant des accidents qui se sont produits dans la vallée du Rhône, sur le couloir rhodanien et donc en particulier sur la rive droite. Alors quand on entend que le mur de la Voulte n'est pas très conscient des accidents, lui qui a quand même été à cette époque, je pense pas qu'il était maire à cette époque, mais il a bien été au courant des accidents qui se sont produits à la Voulte. Alors ce raisonnement des élus nous laisse perplexes et dubitatifs, disons.
Oui, tout à fait. Et alors le constat, par contre, après ça, qu'avait fait sortir du nucléaire, alors proprement pour les déchets nucléaires, mais je crois que c'est valable également pour tout l'ensemble du transport chimique, c'est que comme on ne veut pas savoir ou qu'on ne veut pas aller au-delà, c'est qu'en plus les populations ne sont pas du tout formées à un accident. On l'a vu sur l'essai du tricastin il y a très peu de temps, on en a déjà parlé dans cette émission. Eh bien, on s'est rendu compte que les écoles, etc., n'étaient pas du tout préparées à réagir dans l'urgence, soit à l'accident d'un wagon nucléaire, soit encore moins dans l'accident d'un wagon chimique. C'est donc une véritable inquiétude, effectivement. Et j'imagine que c'est un peu là-dessus que vous allez interpeller les élus ou les candidats dans les différentes municipalités ardéchoises dans les mois à venir.
Voilà, on les interpelle régulièrement. Là, on souhaitait avoir une réunion depuis juin 2012. On avait rencontré ce collectif des élus et donc le président et le sénateur Michel Teston. Il faut savoir qu'il quand même il est au Sénat à la commission du développement ferroviaire en France. Et donc sa position est relativement ambiguë par rapport à la défense des populations ardéchoises. Donc nous attendons une réunion à fin janvier. Donc nous allons lui rappeler donc nos inquiétudes sur ce développement et l'arrivée bien sûr de ce fameux projet marathon dont personne n'était au courant. Je pense que les élus, malgré tout, devaient le savoir, mais c'est quelque chose de très délicat qui est en train de se mettre en place.
Donc, alors oui, justement, ce projet marathon, alors que, concrètement, qu'est-ce que ça signifie par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur la fameuse autoroute alors, ferroviaire? C'est alors, quelque chose de plus.
Voilà, alors le fameux donc, projet marathon vient à la suite de l'intensification ferroviaire et donc à la suite des autoroutes ferroviaires de fret qui se mettent en place actuellement dans la vallée du Rhône et principalement sur les deux tiers de la rive droite. Ce projet marathon, donc, ce sont des trains. Les trains actuellement étaient limités, selon les élus, à 750 mètres de longueur et des tonnages de 2 à 3 000 tonnes. Actuellement, Réseau Ferré France fait des essais sur la ligne lyonnaise La Plaine de Sibelin, donc au sud de Lyon, sur Nîmes. C'est-à-dire, ce côté gauche de Sibelin se retrouve sur la rive droite du Rhône, donc pas sur toutes les 150 km de l'Ardèche. Donc ce sont des convois doubles, c'est-à-dire des convois de 1,5 km, de convois de matières dangereuses, donc multiples d'ailleurs, qui vont se déverser sur la rive droite. Alors, avec donc une particularité, ce sont des convois qui vont être tirés par deux motrices, une électrique et une diesel, soi-disant, et conduits par un seul
conducteur.
Alors, Réseau Ferré de France, par rentabilité, donc pense faire des économies à hauteur de 30%. Donc sur l'utilisation donc, de tous ces matériels roulants. Et c'est pour ça que nous sommes fortement inquiets des conséquences sur la rive droite, à savoir que ces gros convois, sur une voie historique datant de 1873, donc ça va poser quelques inquiétudes pour des passages sur des viaducs comme celui de Serrières, donc, et celui du Pesin, et à travers les nombreux tunnels qui jonchent la rive droite.
Rappelons qu'au Canada, l'accident qu'il y a eu en 2013, voilà. Le Canada et les États-Unis sont réputés pour avoir des trains extrêmement longs qui font plus d'un kilomètre, voire même des fois jusqu'à 3 km aux États-Unis. Voilà. Et c'est un des trains comme ça qui a déraillé et provoqué l'incendie d'une ville entière en 2013. Donc on imagine effectivement le danger de...
Oui, parce qu'il y a eu, je crois, une quarantaine de morts là.
Oui, tout à fait.
C'est toute la ville qui a été impactée, qui a brûlé, donc c'était une catastrophe. Une dramatique à ce titre-là. Et donc, nous, effectivement, si un tel accident devait se produire, on ne sait pas les répercussions que ça pourrait avoir, parce que, de toute façon, toutes les populations ardéchoises, sur un accident comme la fuite d'un wagon de chlore, nous avons fait avec des études parallèles avec des associations lyonnaises, donc, fait que sur un rayon de 1500 à 2000 mètres, vous auriez pratiquement plus de vie dans le quart d'heure qui suit. Et avec une pollution de catégorie 2, certainement, sur un périmètre de 10 mètres, c'est-à-dire l'agglomération valentinoise. Alors, on essaye de faire prendre conscience aux élus que il y a des risques. Si on augmente des cadencements et des trains
et les chargements
d'une telle longueur.
Eh bien, René, merci de nous avoir présenté votre association. Je rappelle que vous pouvez d'abord aller voir le site de l'ADRD 07 en cliquant sur Internet. Vous pouvez aussi les joindre sur ardrd07@gmail.com, prendre contact avec eux. Sortir du nucléaire a pris contact, l'ADRD a pris contact avec Sortir du nucléaire d'ailleurs, Drôme Ardèche, pour travailler un petit peu ensemble sur cette problématique des transports. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup René pour cette présentation, tous nos voeux à votre association et on va suivre votre travail avec beaucoup d'intérêt. Je te remercie beaucoup.
On vous donnera de nos nouvelles et je tiens à vous remercier aussi pour votre intervention. Je pense que pour les populations, donc il y a des risques et puis il y a des pollutions, il y a des pollutions à venir certainement et puis il y a des pertes de patrimoine immobilier. Qui vont être de plus en plus importants avec des cadencements à répétition et si long. Voilà.
Ben, merci beaucoup et puis bonne journée. Et voilà, maintenant, c'est Jeanne qui va nous faire un petit peu notre billet intox-désintox. Jeanne, à toi la parole.
Donc, je veux vous présenter les campagnes de communication d'EDF ces 40 dernières années. Les mots ont toujours eu une importance particulière dans le domaine du nucléaire. Pendant la guerre froide, alors que la course aux armements est très importante, on parle d'atomes pour la paix. Avec le passage au civil, dans un souci d'éviter toute référence à Hiroshima, le terme atomique est remplacé par celui de nucléaire. Pendant la décennie 70, le service des relations publiques d'EDF diffuse gratuitement 1 million d'exemplaires de documentation à la société civile, des films pour les écoliers et des dessins animés pour les enfants d'âge préscolaire. Il faut commencer tôt. Face à la montée de la contestation, EDF et le commissariat à l'énergie atomique mettent en place une communication qui présente l'énergie nucléaire comme une filière électrique parmi d'autres et ses risques comme n'importe quel risque industriel. En 1976, EDF et le commissariat à l'énergie atomique créent l'Association pour l'étude des structures de l'opinion. Ils fabriquent l'ennemi, l'écologiste, qui est anti-technologique, alors que les partisans du nucléaire sont des progressistes. C'est l'homme rationnel contre le retour à la bougie. Au début des années 80, la campagne Énergie France met en avant l'indépendance énergétique nationale. En France, nous avons de l'eau, du charbon, de l'uranium, de quoi produire une électricité de plus en plus française, mais on ne prononce toujours pas le nom du nucléaire, mis à part la mention de l'uranium. Les mines d'uranium françaises ont atteint le maximum de leur production dans les années 80. EDF connaissait donc lors de cette campagne la fin prochaine de cette activité en France. Mais la communication, ce n'est pas de l'information, et le Niger, c'est un peu la France. Vers le milieu des années 80, l'accent est mis sur la satisfaction des clients, le modernisme d'EDF dans un monde qui s'ouvre. L'accident de Tchernobyl en avril 86 rend la banalisation du nucléaire plus difficile. Le gouvernement, malgré l'accident, choisit de continuer dans la voie du nucléaire et de berner les Français sur les conséquences du nuage de Tchernobyl. Et la communication centrée sur la banalisation de l'atome reprend. EDF insiste alors sur l'affirmation que le nucléaire est incontournable, du moins pour la France. Ce n'est qu'en 91 que le nucléaire devient précisément un objet publicitaire. C'est la campagne « Aujourd'hui, 75% de l'électricité est nucléaire ». Cette campagne coûte 12 millions de francs et sera déclinée avec différents produits sur plusieurs années. Après la décennie de crise post-Tchernobyl, l'industrie nucléaire passe à l'offensive. Prenant appui sur le débat devenu planétaire sur le changement climatique, rappelons qu'en 1997, c'est la signature du protocole de Kyoto, EDF forge une nouvelle identité pour l'énergie nucléaire en tant que filière écologique, grâce au choix d'un monde sans CO2. C'est la campagne publicitaire de 2007. Les études réalisées sur le bilan carbone de l'énergie nucléaire font apparaître des valeurs très fluctuantes selon qu'on prend ou non en compte l'ensemble du cycle nucléaire. Le calcul de la valeur des économies en CO2 réalisées avec le nucléaire est impossible en l'état actuel des connaissances, mais EDF s'est présenté comme indubitable des techniques, des résultats d'études et des prévisions qui sont contestables. Dans la dernière publicité en date, la campagne « Les hommes et les femmes d'EDF ne cesseront jamais de croire au progrès », les agents EDF sont présentés comme des visionnaires, accompagnant les Français depuis les années 50 dans une vie toujours meilleure grâce à l'électricité. La façon de produire l'électricité est à peine abordée, un peu d'énergie renouvelable, l'énergie marémotrice. Le reste, évidemment, est nucléaire, puisque depuis des années, on vous dit et on vous répète que vous ne pouvez y échapper. C'est le mix énergétique à la sauce EDF, principalement du nucléaire, et quelques accessoires de renouvelables.
Et vive la pub. Vanessa, tu nous présentes l'agenda.
Et oui, c'est moi qui conclue l'émission aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Saisissez vos agendas. Je vais vous faire tout un... Je vais passer en revue un petit peu tous les événements du mois de janvier. Un mois de janvier qui est relativement riche. À commencer par une action qui aura lieu au rond-point des couleurs à Valence, le 11 janvier à 16h. Alors, il me semble que le 11 janvier, c'est un samedi. A priori, beaucoup de gens sont disponibles le samedi. Donc, si vous l'êtes, venez nous rejoindre à 16h, donc au rond-point des couleurs. Ensuite, comme tous les mois, la réunion mensuelle aura lieu le lundi 27 janvier, la réunion de SDN 2607, au local de la Frapna, avenue de Verdun, à Valence. Vous êtes évidemment les bienvenus, ça peut être l'occasion pour vous de mettre un premier pied dans SDN 2607. C'est un moment, c'est une réunion tout à fait conviviale et sympathique, et nous vous y attendons nombreux. Tous les samedis du mois, ensuite, c'est l'action carte PPI, plan particulier d'intervention. Ça a lieu à Valence, toujours, à Porte-Neuve, à 12h30. Cette action vise à vous informer de ce qui se passerait pour les populations en cas d'accident majeur, que ce soit à Tricastin ou à Cruas. Ensuite, le rendez-vous, alors ça c'est the rendez-vous du mois, le 14 janvier, il y a un rassemblement devant le TGI, le tribunal de grande instance de Valence. Ce jour-là aura lieu le procès des activistes de l'action de Tricastin qui avait eu lieu le 15 juillet dernier. Rappelez-vous, nous en avions beaucoup parlé, les médias en avaient également beaucoup parlé. Cette action à la centrale du Tricastin s'inscrivait dans le projet Quoi de la campagne électricité, et elle avait pour but de dénoncer les risques inhérents à cette centrale et de demander haut et fort sa fermeture aux côtés de 4 autres centrales dans le cadre de la loi sur l'énergie qui sera rédigée d'ici l'automne. Alors, suite à cette action, les 29 activistes de Greenpeace vont être jugés pour violation de domicile et dégradation en réunion. Nous serons donc sur place ce jour-là, le jour du procès, pour les soutenir et porter le message. Rappelons que Greenpeace fait partie du collectif Stop Tricastin, comme SDN 2607. Voilà. Donc, si vous êtes dans le coin ce jour-là, si vous êtes au centre-ville, si vous êtes dispo, et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'équipe vous accueillera avec plaisir et chaleureusement. Nous avons besoin de vous. Ensuite, le week-end du 17-18 janvier, nous avons l'Assemblée Générale du réseau Sortir du Nucléaire qui aura lieu à Lyon. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le blog SDN 2607. Je continue, hein, parce que vous voyez, c'est riche, hein, de quoi prendre des notes. Le 18 janvier, découvrez avec moi, avec nous, le film Welcome to Fukushima au cinéma de Livron. SDN participera à la discussion qui suivra la projection du film et le film sera diffusé à 17h30, donc au cinéma de Livron. J'ai presque fini. Manifestation tous les dimanches à midi devant la mairie de votre choix. Alors ça, c'est une action nationale. C'est voilà, ça relève de votre initiative personnelle. Chacun a choisi sa mairie, la mairie de sa commune ou une autre, et peut se rendre devant à midi le dimanche pour manifester sa volonté d'en finir avec le nucléaire.
Et c'est le moment, à la veille des élections municipales, d'interpeller les élus
sortants
et futurs entrants.
Voilà, exactement. C'est le moment de se manifester en général. Pour finir, je voulais vous parler du projet d'accueil des enfants de Fukushima qui, pour la 3e année consécutive, est organisé par une équipe de bénévoles et porté cette année par l'association Alchemie dans le Vaucluse. En 2013, donc l'été dernier, 7 enfants et leurs accompagnateurs ont été chaleureusement accueillis dans le Luberon. Leur séjour de 10 jours a été une vraie réussite. Chacun est reparti avec le sourire après avoir partagé des moments sincères, ludiques et conviviaux avec les Français qui les accueillaient. Donc voilà, rebelote, cette année c'est reparti. Je vous en dirai plus le mois prochain. Que vous puissiez, de près comme de loin, soutenir cette initiative qui est juste énorme. Voilà pour l'agenda du mois de janvier. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le blog SDN 2607 ainsi que sur Facebook et nous transmettre des idées ou des questions sur le répondeur de la radio au 0805 69 67 58. Nous y répondrons avec le plus grand plaisir. L'émission vous a donc été présentée par Jeanne, Georges, Dominique et à la technique Céline pour vous servir.
Et Vanessa
et moi-même. Pour la playlist, nous avons écouté Zaz. Nous sommes fans de Zaz, je crois, SDN. Enfin, j'espère, en tout cas moi, oui. Nous avons écouté Arcade Fire. Et pour conclure, je vous propose d'écouter Renaud. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain, même heure, même adresse, à 12h15 15 sur Radio Méga 99.2. Nous serons donc le lundi 3 février pour une nouvelle émission d'Atomic Mac. Et je vous souhaite une très belle année à tous. Merci.
D'un chez Coron, cœur me ménage. Chez mineurs viennent d'avoir le congé. Prennent le valise et partent voyager. À la campagne, ouvrir le parenté. Mais comme elles autres, je prends mes bagages. Et je m'en vais, mais je quitte point ma patelin. Je vaux du pays, là la manière que je m'y prends. Sans débourser un sou de train. Et je passe mes vacances tout en haut de Ch'terri. J'ai tout dit de la chance, je t'ai raillé, jamais pris. Je monte une toile de tente, je vis tout seul et je m'arrache. Et je cite, je ris et je cante, et je suis heureux de faire du campinche. Je me fais la popote, je vis bien mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes du rouge à mes orteils. Du haut des couplettes, j'aime croire Chambéry. Mais je ne suis qu'au fait tout un haut de Ch'terri. Comme point de vue faux vierge que je dégote, les beaux, les prairies des environs, chez village, chez ville, nos corons, et je marche le jamais le coup de pharaon.